C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Vendredi dernier, à Ottawa, il y a eu une manifestation d'ados pour dénoncer des méthodes humiliantes utilisées pour appliquer le code vestimentaire à l'école secondaire. Béatrice Desloges, principalement, à l'endroit des jeunes filles. On leur aurait demandé, par exemple, de se pencher vers l'avant et de toucher leurs orteils pour vérifier si leurs sous-vêtements étaient visibles. Et c'était pas un cas isolé, là, si on se fie au témoignage que récolté notre collègue Elisabeth Crête ce matin chez Paul Arcand. Et on a pensé faire appel à notre ami Maude Goyer pour parler de cet enjeu de code vestimentaire. Ça revient, ça, un peu comme la varicelle dans les médias, surtout chaque printemps. Il y a toujours des histoires de code vestimentaire dans les écoles. Salut, Maude.
Salut, Pat.
Donc, le code d'Ottawa, c'est pas unique.
Mais non, c'est pas unique. Ça revient tout le temps, puis ça se promène. Dans les écoles, il y a beaucoup de codes vestimentaires et, aux surprises, cela concerne surtout les filles. Donc, on veut couvrir le corps des filles en leur disant quoi montrer et ne pas montrer. C'est donc important. Il y a une époque, Pat, il n'y a pas si longtemps, c'était ici, là, c'était la cheville, le mollet, le genou. Hein, ça a remonté, les roulets ont monté, monté, monté. Maintenant, ben c'est l'épaule, puis ben la cuisse, ça se fait pas. Puis le nombril, ça se fait pas non plus. Moi, je suis, Patrick, écœurée. Ça fait 25 ans que je suis journaliste, que je m'intéresse aux questions des familles, enfants, maternité, féministe depuis au moins 15 ans. Ça revient toujours. Comme tu as dit, c'est comme la varicelle. Et moi, j'ai tout un scoop pour vous. Quand il fait chaud, les filles vont mettre des shorts.
Oui, mais Maude, attends une minute, là. C'est parce que si on laisse tout ça aller, comment les gars vont faire pour se concentrer dans le cours d'histoire?
C'est ça. Fait que, tu sais, on pourrait penser qu'avec la vague de dénonciations qu'on a eues, d'agressions non dénoncées du MeToo de 2017, on pourrait penser qu'on est un peu dans une perspective de responsabilisation des agresseurs et non des victimes. Parce que dans le fond, on se dit, ben, les victimes ont parlé, on a libéré la parole des filles et des femmes. Mais non, on est encore en train de dire aux filles, faut que tu mettes ça ou pas ça, trop long, trop court, trop sexy, pas assez couvrant, trop en mou, trop en habit de jogging. On est encore en train de dire aux filles comment s'habiller pour gérer quoi, finalement? C'est quoi le message qu'on envoie? Moi, c'est ça qui me choque. Parce que les filles, comment elles le vivent? Les filles, elles le vivent, elles ont un sentiment de honte. Elles se sentent humiliées. Elles tirent sur leur jupe. Elles sont conscientes là, qu'elles se font regarder et qu'elles peuvent se faire retourner. Qu'est-ce qu'on est en train de dire à nos filles? C'est ta faute, c'est ton problème. Mais pourtant, c'est drôle. Après ça, on se dit, c'est une agression. On aime bien leur dire, non, c'est pas parce que t'étais habillée. Mais là, on a comme un double discours. Donc, il y a un problème. C'est que les règles, en fait, sont obsolètes. Ça date, Patrick, le code vestimentaire, ça fait longtemps que ça existe dans les écoles. Mais à partir des années 2000, vers 2003-2004, à cause de tout le discours sur l'hypersexualisation, il y a comme une sorte de panique morale. Où s'en va la jeunesse avec une sexualité débridée? La mode féminine était jugée trop sexy. Donc là, on a posé ça comme un problème. C'est que la tenue est devenue un marqueur de tes mœurs. Donc si tu t'habilles de cette façon-là, tu as nécessairement une sexualité délirante et débridée. Donc, la perception de tes vêtements, c'est la perception de ton mode de vie. Ça part de là. Mais les études le démentent. Il y a plein d'études. J'ai parlé avec une doctorante, une étude au doctorat en sociologie, Rose Moisan-Paquet, de l'Université Laval, qui m'a expliqué que les comportements des jeunes sont les mêmes depuis 30-40 ans.
Ben oui,
c'est toujours la même affaire.
Écoute, on a fait écho la semaine passée à l'émission Maude à une étude qui constatait exactement ce que tu dis là. Les jeunes sont différemment actifs sexuellement, mais l'âge des premières relations sexuelles est le même depuis 30 ans. Ça n'a pas changé.
Puis tu sais, un gars qui veut agresser, quelqu'un qui veut agresser, que tu sois en pyjama ou en décolleté plongeant, oui, je suis désolée, ça change rien. Il y a rien jamais qui est sorti de ça. Donc, ça n'a pas rapport. Fait qu'il faudrait arrêter de juger ce qui est approprié ou non approprié chez les filles. Puis plutôt parler de d'éducation à la sexualité, hein, où sont les cours, tu sais, c'est pas... Ça, c'est vraiment pas de façon uniforme dans toutes les écoles. Il faudrait parler plus de consentement, de respect. Parce que pendant ce temps-là, c'est aux filles qu'on est en train, on est encore en train de mettre la responsabilité sur leurs épaules. Donc, à l'âge de 5e année, 6e année, là, au primaire, à l'âge de 11, 12 ans, moi, j'ai des messages aujourd'hui des filles de 8 ans qui ont demandé à leur mère, pourquoi j'ai pas le droit de mettre ma robe soleil avec des bretelles spaghetti à l'école?
Mais voyons donc,
c'est la charge mentale dès l'âge de 8 ans.
Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, ouais, mais là, s'il n'y a pas de règlement ou si on n'applique pas les règlements, ben, les élèves vont s'habiller comme ils veulent. Puis, par exemple, je me mets dans la peau de quelqu'un, là, OK? Les filles vont arriver en bikini à l'école.
Ben voyons donc. On est-tu en train de faire un choix de pour notre vie, là? C'est un choix de vêtements, de shorts. Les filles, là, laissons les filles s'habiller comme elles veulent. Oui, laissons-les faire. Parce que à partir du moment où tu pointes du doigt de façon individuelle, c'est là que ça devient un problème. En plus, les ados, est-ce qu'ils écoutent leurs parents puis les règles? Voyons, les adolescents, ils vont toujours essayer de tester les limites. C'est normal. Je parlais avec une professeure en fin de semaine de sixième année, une amie, Marie-Ève, qui m'expliquait qu'elle, elle a fait, elle dit, moi, je n'interviendrai pas de façon individuelle. Donc, elle enseigne sixième année, t'es 11-12 ans. Mais elle a fait un discours bienveillant. Hey, les filles, on peut-tu se parler? Ben, avec les gars, évidemment, toute la classe. Parlons-en. C'est si on va dans un mariage, on s'appelle d'une telle façon. Donc, si on parle de gens de convention, de bon jugement, qui s'applique aux gars et aux filles aussi. Donc, ouvrons la conversation, puis arrêtons de dire aux filles comment s'habiller. Moi, je trouve que le discours, il faut déplacer l'affaire.
Quand tu dis arrêtons de dire aux filles comment s'habiller, pour toi, c'est absolu même au secondaire?
Oui, tout à fait. Oui, okay. les filles, elles sont conscientes, elles revendiquent, elles ne sont pas passives par rapport à cette cause-là, elles manifestent. On a toutes des anecdotes, tout le monde en a. Moi, j'en ai, mes sœurs en ont, ma mère en a, ma fille en a, tout le monde en a. On est écœurés. Fait que là, il faudrait juste s'asseoir, que les parents s'impliquent auprès du CE, que les commissions de services scolaires, les centres de services scolaires commencent à revoir les codes, parce que je vous annonce que la chaleur va en avoir plus et plus longtemps et de plus en plus. Alors, ce discours-là va revenir beaucoup, ce sujet-là va revenir. Fait que moi, c'est ça qui me choque. Moi, ce qui me choque, Patrick, mais vraiment profondément, c'est le message qu'on envoie à nos filles. On est déjà en train de leur dire, ça te revient à toi, c'est sur tes épaules.
Bouge pas, Maud.
C'est de ça qu'il faut parler.
Bouge pas, je vais entendre Catherine là-dessus.
Ben moi je comprends tout ce que Maud explique, je pourrais dire en grande partie d'accord avec Maud, mais moi je suis quand même d'accord pour qu'il y ait un code vestimentaire dans les écoles. Ce que je déplore par contre, c'est la façon très humiliante avec laquelle on a vérifié le code vestimentaire. Tu sais, je veux dire, j'ai pas de problème avec la bretelle spaghetti, mais personnellement, moi j'ai davantage de problèmes avec le gilet bédaine. Tu sais, quand on dirait que pour moi ça, peut-être que je viens de la vieille école, j'ai grandi dans un pensionnat avec un code vestimentaire qui était relativement strict, puis qu'on essayait aussi de tromper.
Mais
reste que je pense qu'il faut quand même garder, je sais pas, peut-être un certain standard, pas dans le but de ne pas exciter les garçons. Pour moi, ça, je trouve ça complètement ridicule, mais je trouve juste qu'à un moment donné, c'est comme tu disais, il y a un jugement, tu vas au salon funéraire, tu vas dans un gala, tu vas à quelque part. Mais pour moi, à l'école, il reste qu'on devrait quand même s'habiller convenablement.
Oui, mais là où ça marche pas, là, c'est quand c'est double standard. Les garçons vont porter de n'importe quoi.
Mais ils vont pas en bédaine à l'école,
non, mais tu sais, les shorts, Catherine, là, j'ai eu plein de messages, là, les shorts de sport ou les shorts à l'école, les garçons vont en porter, les filles, c'est non. Les leggings trop moulants, leggings interdits, leggings cachetés.
Mais c'est ça le problème. C'est que le code, selon moi, a pas d'allure. Mais qu'il y ait un code, je veux dire qu'une fille soit en short, pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Il faut qu'il y ait le code vestimentaire autant chez les gars que chez les filles. Puis tu sais, je veux dire, moi, encore là, le bretelle spaghetti, ça passe, des shorts, ça passe, mais c'est peut-être sur la longueur. C'est sûr que, tu sais, si t'as un short qui te rentre dans la craque de foune, ben c'est pas super, tu sais.
C'est quand on parle de ça, Catherine, à partir du moment où tu donnes ces arguments-là, ça veut dire que tu parles du code vestimentaire avec un regard masculin. Il faut juste que t'en aies conscience.
Non, dans le cas d'un gars aussi, le short dans la craque de foune, c'est pas plus
chic. On a internalisé ça, là. Le code vestimentaire, il est là pourquoi? Parce que le corps de la fille est sexualisé, parce qu'elle va provoquer. Fait que là, on est en train de dire, c'est vulgaire, c'est grossier, tu es en train de provoquer, mais notre regard à nous d'adultes par rapport au regard des ados, moi, ma fille, quand elle met un crop top, parce qu'on appelle plus ça, je crois d'être bizarre, appelle ça crop top, mais c'est la même affaire que Britney Spears dans les années 2000, là. Mais dans le fond, elle trouve ça beau, c'est ça qu'on y a, c'est ça qui est tendance, c'est ça qui est en mode. Elle voit pas ça comme, oh mon Dieu, je suis en train de provoquer. Moi, je suis la mère, moi, j'ai interné ce discours-là, puis je suis comme, oh mon Dieu, mais ça me fait sexy, mais voyons, pourquoi je dis ça, ça n'a pas de bon sens. Même moi, des fois, je me dis, voyons que c'est ça, mais écoutons les filles. Les filles ont des choses à dire.
Je suis d'accord, mais
c'est elle qu'il faut écouter.
Je transpose le problème. Est-ce qu'une jeune adolescente, par exemple, qui s'en va travailler, par exemple, dans un café, qui, par sa patronne, se fait offrir un code vestimentaire, est-ce que c'est mal? Tu sais, si elle arrive avec une jupe trop courte, puis la patronne lui dit, ben moi, je pense que c'est pas approprié. C'est parce qu'à un moment donné, on met des bases pour le reste d'une vie. Moi, j'ai pas de problème
parce que on parle de l'exception parce que la plupart des gens, là, quand ils se lèvent le matin, ils regardent qu'est-ce qu'ils vont faire comme activité, puis c'est quoi la météo dans la journée. Mais là, on parle de la fois où, mettons, dans un café, il y a un code. C'est juste ça. On peut-tu parler plus de la masse puis dire, on va parler de consentement puis de respect à place. Puis,
mais ça, j'ai pas de problème.
Je pense qu'on peut faire confiance aux filles. Honnêtement, là, on peut faire confiance aux filles. Ça va, là. Ils vont gérer, c'est correct.
Puis comment on gère l'exception?
Ben là, après ça, ben Catherine, comme je te disais tantôt, des discours bienveillants comme la professeure a fait, là, quelque chose super intelligent, puis très bien, puis ça devient un sujet de discussion, puis ben, même des travaux, des présentations orales là-dessus, impliquons-les, écoutons-les. Voilà.
Très intéressant, très intéressante discussion, mesdames. Merci, merci. Écoutez.
Respect,
moi aussi, je t'aime.
on est vraiment au Québec, hein. Après qu'on soit un peu crêpé le chignon, on est obligé de te dire qu'on s'aime.
Oui, vous avez le droit de
j'aime
pas être
ça.
D'accord, maudite merde.
Merci, Maude.
Hey, on va en reparler,
Pat. Oui, je pense que c'est fertile comme sujet.
C'est fait.
Maude Goyer, journaliste et maman 24/7.
Patrick Lagacé en accéléré.
Parlons de l'Ukraine. Un des buts de Vladimir Poutine en envahissant l'Ukraine, c'était d'affaiblir l'OTAN, le traité militaire mené par les États-Unis, dont le Canada fait partie, et auquel l'Ukraine voulait se joindre, ce qui irritait considérablement Moscou. Ben, c'est raté parce que la Suède et la Finlande, là, qui vivent à l'ombre du géant russe à l'ouest, deux pays historiquement qu'on dit non alignés, et bien ils veulent se joindre à l'OTAN. Finlandais et Suédois ont confirmé cette ambition là en fin de semaine. Évidemment, faire partie de l'OTAN, ça a des avantages certains. Attaquer un pays membre de l'OTAN, c'est s'attaquer à tous les pays membres de l'OTAN. Disons que c'est une force de dissuasion assez intéressante. On va parler de tout ça avec la professeure Chiara Ruffa de l'Université suédoise de la Défense qui est au bout du fil. Professeure Ruffa, bonjour.
Bonjour à vous et merci beaucoup de l'invitation.
Ben, merci réciproquement. D'abord, expliquez à nos auditeurs à quel point la Suède et la Finlande qui veulent rejoindre l'OTAN, c'est une rupture historique avec des positions traditionnelles très fortes.
Oui, il s'agit d'une rupture historique qui s'est passée de façon très vite, donc vraiment dans l'espace de 2-3 mois, je dirais, à partir de l'invasion de l'Ukraine de la part de la Russie. Donc, on s'attendait pas ça. Je dois dire que d'une façon occasionnelle, en 2014, en 2008, on a un peu parlé en Suède et aussi en Finlande de la possibilité de devenir membre de l'OTAN. Mais cette décision, effectivement, de postuler pour devenir membre à quelque chose d'historique s'est passé très vitement et ça rentre à quelque chose qu'on s'attendait pas. Mais je dirais que les deux pays n'avaient plus beaucoup d'autres options que de demander devenir membre de l'OTAN.
Pourquoi vous dites que les deux pays, la Suède et la Finlande, n'avaient plus beaucoup d'autres options que de demander l'adhésion à l'OTAN?
Ouais, parce que je dirais l'approche de Poutine a changé énormément, d'une façon assez linéaire, de façon incrémentale, mais dans les derniers 6 mois, mais en particulier dans les derniers 2-3 mois, tandis que avant, Poutine disait je ne désire pas que la Finlande et la Suède deviennent membres de l'OTAN. Après, à partir d'il y a 2-3 mois, il a commencé à dire je ne veux absolument pas que la Suède et la Finlande deviennent membres de l'OTAN. Et aussi, ça a été quelque chose en fait que Sauli Niinistö, le président du Finlande, a dit il y a 2 jours. Donc il y a quand même une posture de la part de la Russie qui a changé énormément envers les deux pays scandinaves.
Mais professeur Ruffa, dans le fond, les Finlandais et les Suédois ont peur de devenir les Ukrainiens de demain ou après-demain.
Oui, ça c'est vrai, mais en même temps, je dois vous rappeler que de se détacher de cette identité d'être non aligné est quelque chose vraiment d'historique. Là, en Suède en particulier, un peu moins en Finlande. Les Finlandais sont beaucoup plus pragmatiques, donc comme vous disiez, la peur de devenir les prochains Ukrainiens est forte, mais en Suède, l'attachement à la politique de non-alignement est vraiment très très forte. Donc, ça coûte très cher pour les Suédois de se détacher de tout ça. La politique de non-alignement a été perçue comme une histoire de grand succès, un peu comme la clé, en fait, du succès suédois après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, se détacher de tout ça est perçu comme quelque chose de vraiment historique.
Est-ce que le public suédois appuie la décision là, de son gouvernement de tenter de joindre l'OTAN? Est-ce qu'il y a une grande adhésion populaire?
Par rapport à la Finlande, il y a quand même moins d'adhésion populaire et il y a une certaine partie du débat, en particulier deux partis politiques, le parti des Verts, des environnementalistes, et le parti de la gauche, qui est en ce moment encore partie de la coalition du gouvernement, qui se sont dit contraires. Mais par rapport à, disons que le public supporte la décision, mais il ne s'agit pas quand même de nombre que l'on voit en Finlande. Il s'agit quand même d'un attachement, je crois, à la politique de non-alignement beaucoup plus forte, pour des raisons historiques aussi.
Est-ce qu'il y a des risques pour la Suède à se joindre à l'OTAN?
Pas vraiment des risques. Comme vous disiez avant, je pense qu'il y a surtout des opportunités, et surtout au niveau sécuritaire. En un certain moment, je pense que les Suédois, surtout le ministre de la Défense, Hultqvist, s'est un peu rendu compte qu'on ne pouvait plus continuer avec cette idée qu'on pouvait coopérer avec tout le monde en espérant d'être supporté. À un certain moment, les Suédois se sont un peu rendu compte que pour être supporté, comme vous disiez auparavant, il faut être partie de quelque chose. À niveau des risques, il y a un peu les risques qui sont partagés avec la Finlande, c'est-à-dire le risque d'une militarisation de la mer Baltique, le risque d'avoir des bases militaires. Poutine a fait un discours cet après-midi en disant qu'il ne veut absolument pas que la fête de la Finlande ne représenterait pas un risque imminent pour la Russie, mais dans la mesure où il n'y a pas des bases militaires. Et en ce moment, la Suède est en train de dire on joint volontiers l'OTAN, mais à deux conditions. La première condition est de ne pas avoir des armes nucléaires dans notre pays. La deuxième est de ne pas avoir des bases militaires. Donc, on va un peu voir comment ça va se développer. Mais c'était un peu ça le contenu de base du discours que la première ministre Magdalena Andersson a fait quand elle a déclaré l'intention de la Suède de joindre l'OTAN.
Professeur Ruffa, vous êtes une spécialiste de la guerre à l'Université suédoise de la Défense. Vous connaissez bien l'armée suédoise. Dites-moi, l'armée russe a de la misère à se battre avec l'armée ukrainienne qui est extrêmement acharnée. Est-ce que l'armée russe aurait les mêmes difficultés que l'armée suédoise?
Il est très difficile de dire, mais je pense que l'armée russe aurait quand même moins de difficultés avec l'armée suédoise. L'armée suédoise est quand même une armée plutôt bien entraînée, mais très petite. C'est un petit pays qui un officer corps, donc des officiers très bien préparés, mais il s'agit quand même d'une toute petite armée dans un très grand pays. Donc, je ne s'agirait quand même pas du même type de confrontation, et c'est aussi à cause de ceci qu'il est très important pour la Suède de joindre l'OTAN.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Chiara Ruffa. Merci, c'est très apprécié.
Merci à vous de l'invitation.
Salut. C'était Chiara Ruffa, qui est une spécialiste des affaires militaires rattachée à l'Université suédoise de la Défense. Salut Luc.
Salut Patrick.
OK, tu veux revenir sur le rapport de la coroner Jeanne Kamel sur les décès dans les CHSLD pendant la première vague de la pandémie et ça a coulé là dans je pense c'est Radio-Canada qui a eu le scoop, ça devait sortir seulement jeudi. Qu'est-ce qui te frappe là-dedans?
Ah ben c'est un énorme rapport intelligent, articulé, fouillé, réfléchi. Donc il y avait eu 53 décès tout de suite au début de la pandémie, il y en avait eu 47 au CHSLD. Aaron, elle a interviewé 220 personnes pour arriver à ses conclusions. Et elle a fait toutes sortes de conclusions dans tous les domaines. Donc, il y en a qui concernent l'État, il y en a qui concernent les CIUS et les CIS, il y en a qui concernent le CHSLD Aaron, il y en a qui concernent l'avenir. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'on est à la croisée des chemins. Ça a marqué l'histoire. On n'était pas prêt à faire face à une crise. Est-ce qu'on sera prêt à faire face à la suivante? Et la réponse, bien entendu, pas dans l'état actuel, puisque notre incapacité de faire face à la crise est issue du fait que pendant 10 ans, on n'a même pas fait face à la situation sans crise. Donc, des problèmes structurels, une bureaucratie trop lourde pour faire des inspections, on a confié des centaines de personnes à des CHSLD privés non conventionnés sans même se donner la capacité d'inspection. Après ça, ces gens-là, dans bien des cas, même pas capables de répondre aux besoins de base, arrive une pandémie, manque d'infirmières, manque de médecins. Une des conclusions, par exemple, c'est que les médecins ont disparu du CHSLD Aaron, et on fait juste de la télémédecine. pendant des semaines, juste de la télémédecine, sans mettre les pieds dans le CHSLD. Il faut croire qu'au début, il y avait peut-être un manque d'informations, puis qu'il y avait une peur des virus. Mais si les médecins avaient une peur des virus, on peut comprendre que tout le monde avait une peur des virus. Mais du moins, ils n'ont pas mis les pieds. Et elle demande évidemment à l'Ordre des médecins de corriger ça, ce qu'ils ont accepté de faire. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a eu, par exemple, le fait que le directeur de la santé publique avait deux chapeaux. Il parlait d'une part en tant que sous-ministre, boss donc, responsable des fonds publics, responsable des orientations gouvernementales, puis en même temps, responsable des CHSLD, de la façon de se comporter dans les CHSLD. Lui, il savait qu'il n'y avait pas de masse. Il savait qu'il n'y avait pas d'employés. Alors, il a peut-être envoyé des directives qui disaient « on n'en a pas besoin » ou « on peut faire sans ». Donc, elle a dit « il faut absolument séparer les deux rôles ».
Si tu permets, là, tout ça commence en mars, bon, avril, je me rappelle pas quand, là, avril ou mai, là, j'avais fait une chronique en 2020 pour dire, écoutez, le directeur national de la santé publique devrait pas être un sous-ministre, devrait pas être inféodé à la machine. Écoute, c'était à l'époque où tu pouvais pas critiquer le gouvernement d'aucune façon, mais t'es fait lancer des tomates. Mais quand tu y penses froidement, là, la personne qui dit on devrait faire ci et ça dans une pandémie ou dans tout ce qui touche la santé publique devrait pas être congédiable, déplaçable par le gouvernement, parce que des fois, cette personne-là va fatalement recommander des choses qui vont faire suer le gouvernement.
Oui, exactement. C'est la conclusion à laquelle elle arrive. Elle dit au moins qu'on soit capable de faire valoir le problème. Au moins ça. Ça veut pas dire qu'on va être capable de le régler, mais qu'on soit capable de le faire valoir.
Puis je peux te dire que dans les santé publiques régionales, là, c'est toujours sur la pointe des pieds qu'on commençait le début de peut-être une contradiction du gouvernement.
Oui, exactement. Alors, peut-être que c'est ça qu'elle a voulu dire quand elle a dit il faut revoir l'institutionnalisation. Donc, il faut revoir la façon dont notre institution fonctionne. Le CIUSSS, le lien entre le CHSLD, le CIUSSS et le gouvernement. C'est peut-être par là que ça commence. Mais ce sera le tout début d'une solution de problème. Après ça, il y a énormément d'autres problèmes. Manque d'infirmières. Elle propose de mettre plus d'infirmières spécialisées dans les CHSLD, plus de gestionnaires. Rehausser le nombre de gestionnaires, leurs tâches aussi. Plus d'imputabilité, etc., etc., etc. Sauf que, en bout de ligne, une fois qu'on a dit ça, moi je trouve que on se donne l'illusion qu'on va avoir une solution. Si on a le même problème depuis des années, rechanger la bureaucratie puis les institutions puis la structure en se disant ce sont les institutions puis la structure qui sont en partie responsables, à mon avis, c'est pas creusé tout à fait assez profondément. C'est-à-dire que la bureaucratie, là, ce n'est pas le problème. C'est jamais la bureaucratie le problème. La bureaucratie, c'est problème. C'est un problème qui a été mis en place pour tenter de résoudre sans succès 1000 autres problèmes. Par exemple.
Mais tu trouves pas que ça devient un problème à un moment?
Oui, c'est clair.
S'il y a trop d'étages.
Je le dis de façon, provocatrice. Okay. La bureaucratie, c'est un problème. C'est un problème parapluie qui cache 1000 problèmes. Tu dis, ah, c'est la bureaucratie, c'est la bureaucratie. C'est pourquoi que la bureaucratie a été mise en place? Pourquoi qu'on a dit, par exemple, on veut pas que les employés changent d'étage. On veut pas que les gestes. On va avoir des inspections, mais on n'est pas capable de mettre assez d'inspecteurs. Mais quand même, on va quand même faire des inspections par téléphone. Ou on veut avoir un rapport qui va être fait à tous les mois. Mais finalement, il y a jamais personne qui fait le suivi du rapport. Mais pourquoi personne fait le suivi du rapport? Parce qu'il y a pas assez de ressources. Puis pourquoi est-ce que le rapport est toujours accablant? Mais parce qu'il y a une indifférence énorme. Il y a manque d'engagement des gestionnaires, manque d'engagement des employés, trop de charges de travail qui sortent à force de déborder, les gens se tannent puis ils font la job à moitié. La bureaucratie, tu sais, elle essaye de mettre des patchs sur tout ça, mais c'est pas ça. Elle y arrivera jamais à mettre des patchs sur un problème comme le vieillissement de la population, surtout qu'on va doubler le nombre de personnes de 85 ans et plus dans les 15 prochaines années.
Globalement, au-delà des recommandations particulières de Maître Kamel, là, tu sais, je peux pas m'empêcher de penser que l'enjeu des personnes âgées puis le soin des personnes âgées, c'est quand même un problème. C'est comme si on veut tous passer ce problème-là à quelqu'un d'autre.
Oh que oui. Tu sais, juste le terme, je l'ai placé. J'ai placé mon père, j'ai placé ma mère. Souvent, c'est de la sollicitude. Hein. Tu places quelqu'un parce que tu n'es plus capable, mais pas aussi parce qu'elle est plus capable, parce qu'elle n'a plus de capacité cognitive. Non,
puis des fois, à un certain âge ou avec certains problèmes de santé, tu ne peux pas t'en occuper comme
pour. Non, c'est ça. Mais le mot placé. placé, ouais. Là, c'est comme un livre, je l'ai placé. Parce que là, tu dis, OK, c'est réglé. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de,
définitif.
Puis, c'est une solution qui serait parfaite. C'est rangé. Donc, c'est, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Mais oublie ça. Quand tu places quelqu'un, dorénavant, dans notre société d'aujourd'hui, dans la société à venir, il y a personne qui s'en occupe. Qui s'en occupe bien. Pourquoi? Parce que il manque de monde. Parce que ces gens-là ont des problèmes d'une lourdeur telle, capacité cognitive, hygiène personnelle, maladie mentale, parce qu'il y a 20% des personnes qui finissent par développer des problèmes dans cette situation-là, ou alors des maladies mentales inhérentes, comme la Parkinson, Alzheimer et compagnie, démence. Mais là, tu as placé un problème, une personne là, qui nécessite une hyper concentration de problèmes dans une société qui est pas capable de donner une hyper concentration de solutions. Fait que la seule solution, c'est, tu sais quoi? Ils l'ont dit, Madame Kamel le signale d'ailleurs, et plusieurs autres spécialistes, il faut que tu essaies de garder les gens le plus longtemps possible chez eux avec toutes sortes de solutions pour qu'ils finissent par mourir chez eux. Mourir d'avoir pris froid, mourir de vieillesse, mourir d'une mort naturelle, parce que mais en les gardant le plus longtemps chez eux, en étant en vie, ils vont finir par mourir. Mais tu les mets isolés dans un lit avec des mauvais soins, ils vont aussi finir par mourir. Mais on va avoir un rapport Kamel à tous les 10 ans.
Merci Luc, à demain.
À demain.
Patrick Lagacé en accéléré.
Vous êtes sans doute au courant de cette problématique avec la popularité des commandes en ligne. C'est évident, là. Les vols de colis qui sont déposés devant les maisons sont à la hausse. Il y a des gens qui ont souvent eu des mauvaises surprises. Il y a des livreurs qui sont pas toujours très soucieux ou prudents de prévenir ces vols-là. Et il y a même des spécialistes du vol comme ça, là, qui suivent les camions de livraison pour s'emparer des boîtes qui sont déposées sur les perrons devant les portes d'entrée. Par contre, il y a des fois où on se fait livrer des choses qui sont sentimentalement très symboliques et ça peut faire très, très mal. On va parler immédiatement avec Lydia Yakonovski. Elle est résidente du plateau Mont-Royal et elle a vécu une fort malheureuse aventure la semaine passée. Lydia, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Qu'est-ce que vous vous êtes fait voler vendredi dernier?
Alors, vendredi dernier, je me suis fait voler un paquet qui contenait une urne qui avait les cendres de mon chien de 13 ans.
Donc, ça avait été déposé là par une compagnie de livraison et il y a quelqu'un qui vous l'a volé avant même que vous puissiez en prendre possession.
Oui, effectivement, ils l'ont déposé directement devant la porte.
OK. Moi, j'ai vu votre cri du cœur sur la plateforme Reddit la semaine passée. Vous demandiez aux gens du quartier à savoir là, si quelqu'un avait vu l'urne, si quelqu'un l'avait retrouvée. Là, vous vous êtes lancé à la recherche de l'urne. Racontez aux gens qui nous écoutent ce qui est arrivé après.
Oui, effectivement, parce que quand j'ai vu que le livret n'était pas devant ma porte, j'ai commencé à paniquer un peu. Alors, j'ai cherché partout, j'ai fouillé partout sur mon balcon, chez mes voisins, la rue voisine. Et ma tante m'a dit de regarder dans les poubelles. Alors, j'ai commencé à regarder dans la rue et j'ai trouvé, en fait, le paquet déchiré à une dizaine de mètres de ma maison. Donc, le paquet déchiré, là, je trouvais un peu plus loin des feuillets, un peu plus loin l'enveloppe, le petit ruban blanc avec les pattes de chien qui enveloppait l'urne et les petites mousses blanches qui étaient éparpillées un peu partout. Mais l'urne, je l'ai jamais retrouvée. On a cherché partout, on l'a jamais retrouvée.
Donc, on peut penser que la personne a volé le paquet puis en marchant a commencé à déballer pour voir c'était quoi.
Exactement.
OK. Là, j'imagine que vous avez contacté la compagnie de livraison. Qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Alors, la compagnie de livraison était pas, elle n'aidait pas beaucoup. On a été plusieurs à essayer de la contacter, mon ex-conjoint, ma mère, ma tante, et chacun avait des réponses différentes. Moi, j'ai eu comme réponse que le livreur allait revenir chez moi pour montrer à l'endroit exactement où est-ce qu'il avait mis la boîte, parce qu'il avait supposément pas pris de photo, mais que ça allait être dans les 24 heures ouvrables prochaines, donc ça pouvait aller jusqu'à lundi. Mais à mon ex-conjoint, il a parlé à quelqu'un d'autre qui lui a envoyé la photo du livreur qui avait effectivement pris une photo de la boîte où est-ce qu'il avait déposé. Et il l'avait déposé directement en face de la porte à la vue de tout le monde, contrairement à ce qu'on avait demandé.
Oh, vous aviez demandé à ce que ce soit pas laissé là comme ça sans surveillance?
Oui, effectivement, on avait demandé à la compagnie de crémation quand j'ai su qu'il n'y avait pas de signature quand ils livraient l'urne. J'étais déjà d'ailleurs très surprise de ça. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit bon, mais au moins je vais faire une place derrière la poubelle pour pas qu'elle soit à la vue de tout le monde parce qu'on a déjà eu des paquets voilés. Mmh. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous dire au livreur de le mettre derrière la poubelle, ce qu'il n'a pas fait.
Au moment où ils ont livré, est-ce que vous étiez à la maison?
Oui, j'étais à la maison.
Donc, est-ce que si votre sonnette fonctionne, est-ce que vous avez peut-être une sonnette défectueuse ou?
Ma sonnette fonctionne. Je l'ai peut-être pas entendue. Mmh. J'étais peut-être dans le jardin, en arrière, dans la cour à ce moment-là. Mais c'est certain que moi, je savais que ça allait être livré dans les 3 prochains jours. Donc, je voulais rester le plus à la maison possible, justement, pour éviter ce scénario.
Là, il y a des gens qui peuvent dire, oui, ben bon, écoute, c'est juste l'urne d'un chien, c'est pas grave. Pour vous, c'est important, puis vous avez vos raisons. Qu'est-ce que ça vous a fait de pas recevoir l'urne?
Ben, c'est ce que j'essaie de me dire, que c'est pas important, mais... Mais c'est certain que ça m'a brisé le cœur. Ça me fait beaucoup de peine. C'était un chien qui était avec moi, qui voulait toujours être avec moi. Et donc, je me disais, bon, ben, il va encore être avec moi.
Vous avez eu combien de temps?
Pendant 13 ans. Presque 14.
C'est une partie de votre vie, là. Y a quand même quelque chose, Lydia, d'un peu absurde dans le fait que il y a une explosion du commerce en ligne et il y a plein de paquets comme ça qui sont laissés devant les portes. Puis, c'est un peu une chance qu'on prend, là, qu'importe ce qu'on se fait livrer. Là.
Oui, définitivement, même s'il y a des instructions de le laisser pas à la vue de tout le monde, on dirait que c'est vraiment rendu le Far West. Là.
OK, bien écoutez, on sympathise et puis on espère qu'il y a peut-être un petit miracle qui va arriver puis que vous allez retrouver l'urne de votre chien. Merci de nous avoir parlé ce soir.
Merci beaucoup.
À la prochaine. Lydia Yakonovski, je l'ai souligné dans la dernière question, il y a comme un peu une absurdité. C'est souvent c'est livré comme ça, des objets. Tu sais, dans le cas de Mme Yakonovski, c'est un objet qui... C'est pas le coût de l'objet, c'est vraiment la valeur sentimentale, la valeur symbolique. Mais d'autres fois, on peut se faire livrer des objets qui ont une certaine valeur monétaire. On se le fait voler, on est un peu dans le pétrin. Il y a eu une canicule dans les derniers jours. Il fait très, très beau depuis une semaine, 10 jours. Ça a été bénéfique pour les vignerons. On va parler de tout ça avec Simon Nau, qui est vigneron propriétaire du vignoble de la Beauge à Brigham. C'est en Estrie. Salut, Simon.
Salut.
Donc, la canicule, c'est bon pour les vignes?
Oui, en fait, absolument. Toute la chaleur est bienvenue pour la croissance de nos plants.
Ça ressemble à quoi présentement là, dans vos champs?
Ça ressemble à une nature qui explose ces jours-ci. C'est fou, la croissance est multipliée. Là. On avait une saison lente depuis le début de l'année parce qu'il a fait froid en avril puis en début mai. Et comme la vigne était prête à cette chaleur-là, puis là, chaleur et pluie, ça pousse rapidement.
OK, donc écoutez, je évidemment, comme tous les agriculteurs, Simon, là, en tant que vigneron, vous avez toujours un œil sur la météo, toujours une source d'angoisse, je le sais bien. Si on compare à l'année passée, à il y a un an, comment vous jugez, vous jaugez votre chance d'agriculteur ce printemps?
À date, c'est pour moi, là, c'est merveilleux. Parce que l'année passée, on a eu un printemps chaud. Déjà en avril, on avait des 20 degrés Celsius et un peu trop hâtif. Et pour nous, là, ce qui est le plus dommageable, c'est un gel potentiel qui pourrait arriver en mai ou début juin, là, mais c'est surtout en mai. Et les gels printaniers, c'est le pire dommage qui peut nous arriver parce que les bourgeons qui ouvrent sont fragiles, les grappes sont là. Et dès qu'on a un gel à moins 2,5, moins 3, la récolte est anéantie. Et donc, la vigne va reprendre après. Mais comme ça a gelé, tous les bourgeons floraux et de fruits sont anéantis. Et donc, l'année passée, on a dû dealer avec 2 séances de gel au début de mai et à la fin de mai. Fait que ça a été une bataille. Alors que là, semblerait qu'on va s'en tirer. C'est merveilleux.
Avez-vous une tour avant pour réchauffer les champs en cas de gel?
Oui, on en a 3. Parce que, justement, tu sais, on peut pas jouer avec la récolte. Et si ce gel arrive là, il faut absolument avoir une alternative. Puis la protection par le vent, c'est une façon qu'on a trouvée qui était la plus efficace, la plus ponctuelle. et ben une façon d'avoir une récolte assurée à tous les ans, à tout le moins on pense assurée.
Simon, prenez 30 secondes, expliquez aux gens le principe des tours à vent. Là. C'est pour situer les gens, il y a des vignerons comme ça là, qui ont une sorte d'éolienne. Vous, vous en avez trois. Comment ça fonctionne?
Ouais, en fait, le gel qui arrive pendant la nuit, ça arrive souvent par des nuits claires. Et pendant la nuit, il y a une inversion de température. Fait que la masse d'air froide qui est en hauteur va descendre près du sol et va se coucher près des vignes. Et là, plus t'es bas, plus c'est gélif. Et avec le temps, la température chaude, elle, les masses d'air chaude sont plus hautes. Les fans sont là pour souffler l'air chaud, la reprendre, cette masse d'air chaude qui est en hauteur, et la repousser vers le sol pour exclure de la parcelle les masses d'air froides et expulser ça vers l'extérieur. Fait que ce mouvement d'air-là va nous faire gagner à peu près 2 degrés, demi, 3 degrés, et c'est bien souvent suffisant pour nous faire passer justement cette période de gel qui est autour de 5h30, 6h le matin, là, c'est plus critique.
Et là, si je comprends bien, est-ce que c'est une fin de printemps pour vous là qui est plus reposante que l'année passée?
Ah oui, c'est clair. Ben, tu sais, on le sait jamais quand ça va arriver. L'année passée, je me souviens avec des collègues, il faisait beau, il faisait chaud aussi à un moment donné en mai l'année passée. Et on s'est dit, OK, ça va, là, il y aura pas de gel, mais bang, le 29 mai, tu sais, un moins 3, on l'a eu dans... Fait que, on sait, j'ose pas trop parler dans le vide, mais tout ce que j'ai vu comme pronostic à date, on dirait que jusqu'au 32 mai, on devrait pas avoir de gel. On ça va baisser pas mal cette semaine, autour de 2-3 par les nuits, je pense que c'est mercredi ou jeudi, mais il n'y a pas de moins, fait que c'est correct.
Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir. Très intéressant. On vous souhaite d'excellentes récoltes cette année.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'était Simoneau, vigneron propriétaire du vignoble de la Bauge à Brigham. C'est en Estrie.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.